L'instruction du dossier judiciaire sur les commanditaires des émeutes du 13 mai ne sera pas dépaysée en métropole. Décision prise et annoncée sur Radio Rythme Bleu par le procureur général de Nouméa, Bruno Dalle. La province sud en grande difficulté financière, la collectivité a dû revoir son budget à la baisse pour la deuxième fois depuis le mois de juillet. Le collège de Tuban retrouve une vie normale. Le haut commissaire Louis Lefranc est allé ce matin à la rencontre des élèves, des parents et des professeurs. Et puis la base navale Chalex relance Cap Citoyen, une journée découverte et de démonstration destinée aux élèves des classes de défense de 3e. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'impact dévastateur des émeutes sur les finances de la province sud a donc contraint la collectivité à réajuster son budget et revoir ses ambitions à la baisse pour la deuxième fois depuis le mois de juillet dernier. Constat dressé ce matin en séance plénière, Jean-François Bonin.
Le Congrès avait estimé à plus de 32 milliards de francs les pertes de recettes fiscales qui alimentent l'ensemble des collectivités. Et la province sud est concernée à hauteur de 10 milliards. La décision adoptée ce matin à l'unanimité implique une baisse du budget provincial de 4% qui va se traduire par une nouvelle diminution des dépenses de fonctionnement de 11%. Sonia Baquès, la présidente de la province sud.
La perte de recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie qui est liée aux exactions a généré une perte budgétaire pour la province de 10,8 milliards. Donc la province a été chercher au bout du bout de ce qu'elle pouvait aller chercher en dehors des dépenses obligatoires que sont les salaires et les engagements déjà lancés, les travaux déjà lancés, etc. On a en gros tout coupé. Et malgré ça, on a encore une impasse budgétaire de l'ordre de 3 milliards qui est couverte par une subvention exceptionnelle de l'État sur laquelle on est en train de travailler, sur la reconstruction d'une part, d'autre part sur de nouveaux investissements publics. Concrètement, sans ça, on ne serait pas capable de payer nos salaires jusqu'à la fin de l'année. C'est la réalité aujourd'hui à laquelle est confrontée la province. Et ça ne va pas s'arranger, c'est-à-dire que concrètement, si on n'a pas d'aide de l'État dans des délais très courts, c'est ce que j'ai défendu à Paris et c'est ce que nous continuons à défendre également, je crois, tous ensemble au Congrès, les collectivités seront en cessation de paiement. Donc là, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais malgré tout, on est dans une situation difficilement supportable.
La province sud qui a également acté ce matin la fermeture définitive du collège de Rivière-Salée, autre conséquence des émeutes déclenchées par la CCAT. Des travaux de rénovation de ce collège étaient initialement prévus, mais ils portaient sur la rénovation des deux bâtiments qui ont finalement été détruits. Face à l'ampleur des travaux nécessaires évalués à 700 millions de francs, la province a dû prendre une décision évidemment difficile, souligne Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province sud.
Je comprends que cette décision est difficile pour les parents, mais il faut être pragmatique. Le collège de Rivière-Salée a été aux deux tiers détruit, 750 millions pour essayer de le remettre en état. Et donc on n'a pas la capacité technique de faire autant de travaux en maintenant le collège ouvert, c'est-à-dire de tout démolir et de tout reconstruire avec des salles de cours à côté. Et on n'a pas aujourd'hui la capacité financière. Et ça, malheureusement, ce qui se passe pour le collège de Rivière-Salée, ça va se passer pour beaucoup d'établissements et de services publics. On a perdu énormément de recettes fiscales et on a perdu énormément de nos murs, de nos bâtiments. Donc ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles ces élèves et ils seront bien accueillis au collège de Porte de Fer. Donc pour les collégiens de Rivière-Salée, il n'y aura pas une perte de qualité de l'enseignement et c'est ça qui est important pour nous.
Cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura plus de collège à Rivière-Salée, mais il va falloir tenir compte de l'évolution de la démographie, explique Gilles Brial.
Il y a une grosse baisse de la démographie. Avant le 13 mai, ces quatre dernières années, on avait perdu 1400 élèves dans le primaire et 500 juste dans le secondaire pour Nouméa, dans les collèges de la seule commune de Nouméa. Et là, depuis le 13 mai, on a perdu 1130 élèves dans les écoles primaires de province sud, dont 700 qui ont quitté le territoire. Donc, je dirais, les futures constructions se feront avec beaucoup moins de moyens financiers, donc elles devront se faire là où il y a vraiment besoin.
Un dossier qui a donné lieu à un débat plutôt houleux entre l'exécutif, les élus indépendantistes et Calédonie Ensemble. Ces derniers étant opposés à une fermeture définitive du collège. L'UCF-LNKS et Calédonie Ensemble ainsi que les élus de l'éveil océanien ont d'ailleurs voté contre après avoir tenté en vain de faire renvoyer la délibération à une date ultérieure.
Il ne s'était pas exprimé dans les médias depuis un long moment. C'est le haut commissaire Louis Lefranc qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Quelle est la situation 4 mois après le début des émeutes? Où en est le retour à l'ordre public? Quelles sont les aides de l'État? Ce sont quelques-unes des questions qui seront posées au commissaire. Interview à suivre demain, donc à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
RRB, il est 17h50.
Le procureur général de Nouméa a donc rejeté la requête de dépaysement de la procédure visant des responsables de la CCAT. Il l'a annoncé ce matin sur Radio Rythme Bleu. L'instruction du dossier sur les commanditaires des émeutes restera en Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Noir.
Le procureur général de Nouméa, Bruno Dalle, avait été saisi il y a 10 jours par les avocats du FLNKS d'une demande de dépaysement de l'instruction des enquêtes sur les commanditaires des émeutes du 13 mai. C'est sur RRB qu'il a annoncé ce matin son rejet de la demande des avocats du FLNKS. Le procureur général explique que cette décision est un pouvoir qui lui appartient et il dénonce un certain nombre de pressions, notamment de la part de magistrats locaux qui ont tenté de peser sur sa décision. Mais il indique que les dispositions ont été prises pour permettre de traiter sérieusement ce dossier. Depuis le 15 juillet, un magistrat supplémentaire a été nommé à l'instruction et des renforts du ministère de la Justice sont arrivés à Nouméa. Bruno Dalle a aussi justifié les détentions en métropole.
Ce sont une 60aine de condamnés qu'on a transférés, tout simplement pourquoi ? Parce que notre devoir, c'est de préserver les conditions de détention qui sont indignes. Le tribunal administratif condamne régulièrement l'État, et donc nous sommes des gens responsables et respectueux des droits, et donc nous avons considéré qu'il fallait que les détenus soient dans des conditions dignes de détention. C'est pour ça qu'ils ont été envoyés pour la plupart en métropole. Et ce travail doit continuer, parce que malgré les efforts de l'administration pénitentiaire, on a encore une situation de détention qui n'est pas satisfaisante, et je rappelle qu'au moment des événements, il y a eu 2 mutineries et donc il n'était pas question de mettre des personnes à nouveau de la CCAT dans la prison au risque d'avoir une nouvelle mutinerie ou d'avoir un appel à marcher sur la prison pour libérer les camarades.
Concernant les arguments des avocats du FLNKS, le procureur général estime que l'ensemble des arguments qui ont été soulevés, de son point de vue, ne sont pas des arguments pertinents. Bruno Dalle a notamment réfuté les accusations de partialité formulées par les avocats à l'encontre du procureur de la République Yves Dupas.
J'ai dû faire un cours de droit en rappelant que l'information judiciaire était ouverte sur des faits d'association de malfaiteurs, sur des délits en bande organisée, sur des faits criminels, et que donc ces qualifications-là, dans un langage courant et pédagogique, ça veut dire organisation criminelle. Ils ont considéré aussi que le fait de dire cela, c'était une atteinte à la présomption d'innocence. Le procureur de la République n'a jamais cité nominativement aucune personne mise en cause dans ce dossier, dans aucune de ses interviews. La seule personne qui est citée, c'est Christian Tain, qui lui-même assume pleinement les responsabilités de chef de la CCAT. Donc tout le débat, c'est de savoir si la CCAT est en totalité ou en partie une organisation criminelle. C'est le but d'une information judiciaire. Et parler d'une structure, ce n'est pas une atteinte à la présomption d'innocence de cette structure.
Le procureur général relève par ailleurs que les avocats des 7 militants de la CCAT incarcérés en métropole demandaient la délocalisation de l'instruction, mais dans le même temps, ils réclamaient le retour des commanditaires présumés en Nouvelle-Calédonie. Bruno Dalle qui n'hésite pas à parler de défense schizophrène. Les avocats des prévenus peuvent encore, s'ils le souhaitent, saisir. Le procureur général de la Cour de cassation a-t-il enfin indiqué. Une interview du procureur général à retrouver, bien sûr, en audio et en vidéo sur le site internet d'RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour. Êtes-vous choqué que la secrétaire générale du RDO, Laurie Oumouni, soit en charge au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des secteurs de la construction et de l'habitat ? Si cela vous choque, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 57% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que c'est le Premier ministre qui, au plus haut niveau de l'État, doit s'occuper en priorité du dossier calédonien. Ils sont 43% à penser que c'est le président de la République qui doit s'en occuper. 17h54, dans un instant, la suite de l'actualité.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Le fitness débarque au quartier latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés, les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
Info soir, Gilles Ménage.
Un couple de Canala a été arrêté après le refus d'obtempérer de la foi samedi soir. Un chauffard de 24 ans avait voulu se soustraire à un contrôle routier mené dans le cadre d'une opération anti-délinquance. Il avait pris la fuite en montant sur le trottoir et en percutant le militaire qui a été projeté sur le capot de la voiture. 1 kilomètre plus loin, il avait foncé sur un autre gendarme qui, lui, avait réussi à éviter le choc. Le conducteur et sa compagne, qui étaient passagères, ont été arrêtés mardi et seront présentés au magistrat instructeur dans la soirée. Une information judiciaire sera ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique concernant le conducteur et pour tentative de meurtre concernant sa compagne. Le Haut Commissariat a réalisé ce mardi de nombreuses opérations de contrôle des activités de sécurité privée à Nouméa. Au total, 22 établissements et 44 personnes ont été inspectées par le COTAF, le Comité opérationnel territorial antifraude. Le but était de détecter d'éventuelles pratiques illégales de type racket ou extorsion. Ces contrôles ont permis de révéler 9 infractions concernant la réglementation du travail. Et puis les élus Génération ANC de Dimbéa demandent le maintien du marché du parc Fayard après que l'exécutif ait pris la décision d'annuler le marché et le vide-grenier prévu à l'origine ce samedi 15 septembre. Comment peut-on accepter cela tandis que dans le même temps, les militants de la CCAT continuent de squatter impunément l'espace public devant Dimbéa Mall, vendant illégalement leurs sculptures et leurs brochettes de viande, interrogent les élus Génération ANC. Pour eux, on choisit d'interdire ce qui est légitime et de laisser agir dans l'illégalité la plus totale ceux qui ont détruit. En conséquence, ils demandent au maire de Dimbéa de bien vouloir revenir sur sa décision et permettre la tenue de ce marché. Ils demandent également au commissaire de faire le nécessaire afin que l'espace public soit rendu dans son intégralité au Dimbéa. Le maire de la commune de Dimbéa qui répond dans un communiqué qui nous est parvenu il y a quelques minutes, la ville de Dimbéa rappelle que c'est un arrêté du haut-commissaire de la République et non de l'exécutif de Dimbéa qui interdit jusqu'au 30 septembre tout rassemblement, manifestation et cortège sur les 4 communes du Grand Nouméa. Cette interdiction concerne uniquement le domaine public, donc le parc Fayard, précise la mairie. Si la ville de Dimbéa, en tant que collectivité, se doit de respecter les arrêtés de l'État compétent en matière d'ordre public, elle comprend le désagrément que suscite ce type d'interdiction, notamment pour les marchés de proximité. Et elle invite les agriculteurs et les artisans à participer au marché communal qui se tiendra le samedi 5 octobre prochain.
Vous écoutez Info Soir, il est 17h57.
Le collège de Tuban, de son côté, reprend une vie normale. Depuis 4 semaines, les élèves ont pu retrouver leur salle de classe. L'établissement avait été fermé, vous le savez, de longues semaines en raison de l'insécurité persistante dans le quartier. Les élèves avaient dû être scolarisés dans 3 autres collèges en attendant le retour au calme. Depuis la rentrée, les choses semblent s'être stabilisées. Ce matin, le haut-commissaire Louis Lefranc a rendu visite à la communauté éducative et aux élèves et il a pu constater que le calme est revenu dans le quartier et que les élèves ont repris une vie normale.
Beaucoup d'espoir, la confiance retrouvée dans cet établissement. On entend souvent vivre ensemble, une volonté réelle, ressentie pour les jeunes de se retrouver dans cet établissement dont ils ont été privés pendant de nombreuses semaines. Enfin, tout le monde heureux de retrouver une vie normale dans ce collège qui n'aurait jamais dû être fermé. Voilà. Donc moi, je suis très favorablement impressionné par cette capacité de rebond, cette capacité d'aller de l'avant, de ne pas se résigner. En fait, ce que je tire comme conclusion, c'est la volonté de retrouver une vie normale, une scolarité normale, la volonté de tourner cette page qui restera un mauvais souvenir pour tout le monde.
Isabelle Chambreau, vice-présidente du gouvernement en charge notamment de l'enseignement, était présente à Tuban ce matin. Elle est évidemment également satisfaite de cette réouverture.
C'est un très bon bilan que l'on fait de cette période de réouverture. Ça a été un long travail. Le Haut Commissariat nous a aidés à coordonner un groupe de travail inter-collectivité. Chacun dans nos compétences, ça a été du nettoyage de la voirie jusqu'à la sécurisation par exemple par la SIC, par les locaux autour du collège. Et je pense que c'est ce travail de terrain avec la présence des forces de l'ordre aussi à l'entrée le matin, à la sortie des élèves, qui permet de maintenir cette sécurisation, mais aussi de rassurer. Le mot qu'on a vraiment entendu aujourd'hui, c'est « nous sommes rassurés, nous sommes revenus dans un environnement serein ». Et au niveau de l'enseignement, pour nous, c'était vraiment important symboliquement que nos établissements réouvrent. On voit que les enfants sont en sécurité, ils ont repris leurs apprentissages, ils ont accès aussi à des services, par exemple à la cantine. Donc pour nous, ça symbolise vraiment le partenariat qu'on a pu tisser dans cette période de crise.
Et de son côté, David Bernouy, le proviseur du collège de Tuban, est aujourd'hui ravi de voir les élèves revenir avec le sourire et parfois même en vélo. Preuve que le calme est revenu.
Une grande sérénité autour du collège. Ça se traduit par la vie dans le quartier qui a repris, avec des gens qui circulent, des familles qui déposent les enfants ravis avec le sourire, les équipes qui font leur travail et la dynamique du collège de Tuban qui a pu reprendre. Il y a eu quelques dégâts et tout a été réparé, à la fois par les personnels, mais aussi pour beaucoup par la province sud qui a mandaté des entreprises qui sont intervenues pendant les vacances, avant les vacances, après les vacances. Presque tout est réparé, il nous reste au niveau des plateaux sportifs des choses à régler. Un grand remerciement pour tout ce qui a été mis en place et faire en sorte que toute la communauté du collège puisse reprendre ses activités et soit sereine pour le faire. Nous avons repris nos fonctionnements habituels et ça ravit tout le monde.
Les élèves ont pu échanger aujourd'hui avec le haut-commissaire sur la façon dont ils ont vécu cette période, mais aussi sur les quelques difficultés qui persistent encore après la destruction de certains équipements sportifs. Autre bonne nouvelle, le dispositif Cap Citoyen a repris aujourd'hui. 21 élèves de la classe de défense du collège de Bouraille ont pu profiter d'une journée riche en ateliers découvertes à la base navale de Nouméa, Charlotte Coulson.
Au cœur de la base navale Chalex, ces élèves de 3e ont pu découvrir le monde de la marine. Au programme, une visite de bateau, une rencontre avec les marins-pompiers, mais aussi avec les anciens combattants, et enfin une démonstration des fusiliers marins. On écoute le premier maître Arnaud, chargé de l'organisation des caps citoyens sur la base navale.
On se réjouit vraiment de pouvoir relancer nos actions jeunesse, dont on était habitué à les organiser sur la base navale. C'est très complet. C'est très très complet, c'est un programme basé sur différents ateliers. La priorité numéro une, c'est justement de maintenir ce lien armée-jeunesse-nation. Ça, c'est très important pour nous. La deuxième priorité, c'est bien sûr de faire découvrir les métiers de la marine nationale à tous ces jeunes pour qu'ils puissent voir effectivement tous les métiers qui peuvent exister au sein de l'armée et plus particulièrement au sein de la marine nationale.
Et au programme cet après-midi, les élèves ont eu droit à une sensibilisation et une démonstration de légitime défense. Comme exercice, les militaires ont simulé l'intrusion d'un individu remis aux forces de sécurité. Une équipe déployée, un chien également, encadré par l'équipe cynophile. Un moment d'un réalisme qui a impressionné les élèves sur place.
Personnellement, de cette journée, j'ai retenu pas mal de métiers et de personnes qui travaillent dans justement la marine. J'en ai découvert des métiers, découvert des zones, découvert aussi des moyens comme les armes que j'avais déjà maniées avec un permis militaire, mais aussi la force des chiens qui est assez intéressante et assez forte aussi.
La force du chien, quand il nous mord, c'est sûr qu'il faudrait pas qu'il nous attrape comme ça sans rien. Les réglages, surtout du sniper, donc ils sont vachement intéressants, vu qu'il y en a un qui était tireur de précision et ça m'intéresse.
Ça m'a appris beaucoup de choses, notamment aussi, pour l'histoire géo aussi, c'est très important. Donc, surtout que je suis en année de 3e, donc c'est important pour le brevet. On va dire que c'était magique un peu parce que, bien sûr, on voit les films, on voit la télé, mais on n'a jamais vu vraiment en réel aussi.
Cette journée Cap Citoyen permet aux militaires de la marine de faire découvrir leur métier afin d'appeler les jeunes à s'engager au sein de la marine. Romuald est fusilier marin depuis 30 ans.
Forcément, le métier de fusilier marin avec les armes, l'emploi des maîtres chiens, les technologies modernes comme le drone par exemple, c'est toujours attirant pour des jeunes qui sont quand même très très axés sur les jeux vidéo. J'espère avoir suscité l'éveil de ces jeunes sur ces métiers-là, qu'ils aient envie de découvrir et d'approfondir un petit peu la découverte et puis la connaissance de ce travail. Peut-être de susciter des vocations et puis de fédérer un petit peu ces jeunes, de leur donner une sorte de guide et un chemin à suivre après pour un éventuel engagement. Et que si certains peuvent y voir quelque chose et un mode de vie nouveau, je trouve que c'est très bien. La marine, ce qui fait notre force, c'est aussi l'ancienneté, parce qu'on a toujours la sagesse et le savoir, mais on a en permanence besoin de sang neuf et de personnes qui apporteront un regain d'énergie et un regard novateur un petit peu sur les différents métiers qu'on peut proposer.
Et le prochain Cap Citoyen aura lieu le 17 septembre avec les élèves du collège de Dimbéa, Francis Carco.
Il est 18h04, dans un instant, retour sur notre magazine citoyen, de notre magazine Les Jeudis de l'économie, pardon, de ce midi. Il était consacré au secteur du tourisme.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
La Chambre d'agriculture et de la pêche vous invite au Grand Marché Broussard organisé sous la halle de Ducosse samedi 14 septembre de 7h à 16h. Au menu du jour, des produits locaux, de la restauration, des animations et bien plus encore.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Gilles Ménage.
Le secteur du tourisme souffre également beaucoup des effets des émeutes. Nous en avons parlé dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi. Tous les secteurs sont touchés, du transport maritime à l'hôtellerie, restauration, en passant par les locations de voitures et les activités diverses. Des difficultés d'autant plus importantes que ce sont des activités qui avaient déjà été mises à mal lors de la crise Covid, a rappelé Raphaël Larvor, le directeur du développement économique et du tourisme à la province sud.
Avant le Covid, on était quand même sur environ 29 à 30 milliards de chiffre d'affaires et de recettes touristiques, si on compte les touristes et puis les croisiéristes. 30 milliards de chiffre d'affaires, c'est quelque chose d'absolument considérable. avec donc ensuite un ruissellement sur l'ensemble de l'économie, évidemment, de la province. On était en progression constante, on est arrivé à 130 000 touristes. Alors évidemment, le Covid est arrivé, ça a stoppé, puis le redémarrage a été plutôt lent. Mais néanmoins, ce redémarrage était une réalité. Alors ce qui s'est passé, évidemment, le 13 mai dernier, a mis à terre tous ces efforts de reconstruction post-Covid qui commençaient à porter leurs fruits. Pour ajouter au chiffre d'affaires, hein, 30 milliards encore, je le répète, ça représentait en emploi environ 5 000 emplois directs sur la Nouvelle-Calédonie.
Tous les secteurs sont donc touchés. Pour les agences de voyage, par exemple, la situation est d'autant plus difficile que les critères pour toucher les aides mises en place, notamment par l'État, ne répondent pas à la réalité de la situation, a expliqué Véa Frogier, présidente du syndicat des agences de voyage.
Les conséquences du Covid ont été subies par les agences de voyage jusqu'au mois de juin 2022. Il y a à peine 2 ans, notre secteur ne fonctionnait pas correctement. Et ce que l'on déplore aujourd'hui, c'est que c'est très bien de mettre en place des aides, c'est parfait. Or, je vous donne un exemple précis, le mien. J'ai fait ma demande de fonds de solidarité de l'État pour le mois de mai, où j'ai perdu plus de 50% de mon chiffre d'affaires. Eh bien, j'ai reçu une réponse le 9 septembre, pour me dire que, eh ben non, en fin de compte, je n'avais pas perdu suffisamment de chiffre d'affaires, puisqu'il se base sur mon mois de mai 2022.
Qui était encore un mois impacté par le Covid.
Voilà, exactement. J'espère réellement que ce cri d'alerte va nous aider à nous faire entendre pour que les aides qui sont proposées soient cohérentes et nous permettent à nous d'avancer et de tenir.
Voilà pour ces extraits des Jeudis de l'économie qui sont bien sûr à retrouver en intégralité audio et vidéo sur notre site internet. Le mode d'alimentation des Calédoniens, lui, évolue. Les marchés de proximité connaissent un véritable élan et la proximité est aujourd'hui de plus en plus recherchée. Nous en parlerons demain matin avec notre invité. À 7h30, nous recevrons le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, Jean-Christophe Niotou, à l'occasion du grand marché Broussard qui aura lieu samedi à la halle de Ducos. L'actualité dans la région Pacifique nous emmène à Melbourne où des heurts parfois très violents se sont produits hier après-midi. Ils ont opposé policiers et opposants à un salon de matériel militaire. Récit Jean-Pierre Zajac.
Environ 1000 exposants venus de 31 pays étaient présents à Melbourne où s'étaient également rassemblés 1500 sympathisants pro-palestiniens et autres opposants à la guerre sous toutes ses formes. Leur intention était de perturber le bon déroulement du salon. À défaut de l'interdire ou de le prendre d'assaut, ils ont insulté ceux qui s'y rendaient avant d'attaquer la police censée en protéger les abords. Les émeutiers ont lancé des pierres, du crottin de cheval et de l'acide aux forces de l'ordre qui étaient épaulées par la police montée. Ils ont également incendié des poubelles et détruit des palissades. Les policiers, dont une quarantaine ont été blessés, ont riposté par des tirs de grenades incapacitantes, de gaz poivre et de balles en caoutchouc. Ils ont aussi procédé à plusieurs arrestations. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et dans la région toujours, mais cette fois c'est du football, avec une bonne nouvelle pour les Calédoniennes qui se sont imposées face aux Salomonaises aux îles Fidji. L'équipe féminine entraînée par Kenji Vandegou a remporté 2-1 la première rencontre du tournoi OFC U16 ce jeudi. Un beau match, remporté notamment grâce à un doublé de l'attaquante Kinyé Maen. La prochaine rencontre opposera la sélection calédonienne à celle de la Polynésie française. Ce sera dimanche. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on vous écoute pour les détails, Nicolas.
Alors, cette nuit, sur les loyautés, l'Est, l'extrême sud et l'île des Pins, les nuages s'apaisseront et donneront des averses plus fréquentes en fin de nuit, notamment sur le sud-est où elles pourront être localement modérées à fortes. Sur les autres régions, le ciel restera bien dégagé. L'alizée d'est-sud-est baissera d'un cran avec 15 nœuds sur l'est, la pointe nord et les loyautés, et de 10 à 15 nœuds sur l'extrême sud. La côte ouest sera globalement déventée. Les températures minimales seront au-dessus des normales avec 17 à 22 degrés. Demain matin, le ciel sera nuageux, hormis sur l'ouest où les éclaircies seront encore bien présentes. Des averses parfois modérées circuleront encore sur le sud, l'est et au Loyauté. L'alizé de secteur est faiblira légèrement et soufflera entre 10 et 15 nœuds sur la pointe sud, le nord-est, l'île des Pins et au Loyauté. La côte ouest restera généralement déventée, Gilles.